Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview de notre événement Manager Demain. J'espère que l'ensemble des interviews vous plaisent et aujourd'hui, j'ai l'honneur, le plaisir d'accueillir une invitée exceptionnelle. Vous allez voir, elle a un parcours incroyable. Elle est docteure en sciences, conférencière, coach professionnelle. C'est une grande spécialiste des neurosciences appliquées, notamment à la performance. Elle a été chercheuse, notamment à l'Institut Pasteur, et elle s'est tellement passionnée pour le fonctionnement de notre cerveau qu'elle a elle-même décidé de participer à plus de 100 études cliniques pour pouvoir explorer ses mécanismes cérébraux, ses mécanismes cognitifs et émotionnels. Et elle a écrit un livre que j'ai dévoré. Voilà, Neuroexcellence, donc aux éditions Dunod, que je vous invite à aller vite, vite commander parce que c'est une véritable merveille. Donc, je vous demande d'accueillir avec un tonnerre d'applaudissements Biljana Todorova. Bienvenue, Biljana.
Bonjour Clément, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Je suis vraiment heureuse d'être avec vous aujourd'hui, de partager, d'apporter les neurosciences à tout type de réflexion sur nos problématiques du quotidien, en tout ce qui peut être questionné, remis en question et renouvelé.
Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment un honneur de t'avoir pour cet événement Manager Demain. Je t'ai découvert grâce à ton livre. Et je suis tombé fan. Voilà, j'ai adoré, je l'ai dévoré en peu de temps. Et donc, ça a été pour moi une évidence d'essayer de te contacter vite, vite pour faire ta connaissance et voir si tu accepterais. Et un grand merci d'avoir aussi rapidement et spontanément accepté.
Avec grand plaisir.
Et donc, je voulais te demander, Biljana, je t'ai présenté brièvement, mais est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ton parcours ? Avant que nous rentrions dans le vif du sujet et que nous fassions le lien entre neurosciences et confiance.
Donc, moi, je suis scientifique et pendant plusieurs années, j'ai eu une carrière tout à fait conventionnelle de scientifique. Je travaillais en laboratoire de recherche. Je faisais des expériences pour chercher des solutions face au VIH, l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine. Et ensuite, à l'Institut Pasteur, on a travaillé sur les thérapies contre les cancers et notamment le cancer du sein. Donc, des questions très, très sérieuses, très pertinentes. Mais tout au long de mes recherches, moi, il y avait une vraie question qui m'était personnelle, qui me torturait de l'intérieur de moi. C'était le fonctionnement de notre cerveau et, bon, pour être sincère, le fonctionnement du mien. Voilà, on est un peu égoïste quand on est dans la douleur. Moi, c'était ma plus grande douleur de ma vie, c'était de me sentir prisonnière de mon propre cerveau. J'étais entourée des meilleurs scientifiques, on pouvait présupposer que j'avais un bon cerveau qui pouvait réfléchir. Et cependant, je me retrouvais le soir devant le challenge de ma journée, c'était d'aller acheter ma baguette à la boulangerie. Et je me retrouvais bloquée dans mon cerveau, en train de transpirer devant la porte de la boulangerie, en me répétant la phrase que j'avais peur d'oublier en rentrant dans la boulangerie, « Une baguette, s'il vous plaît ». Donc voilà, j'ai démarré de là mes compétences. À ce stade de ma vie, je ne savais même pas que ce sont des compétences qu'on pouvait développer. J'avais zéro compétence en termes de gestion émotionnelle et les compétences relationnelles, je ne savais même pas que ça existait. Je pensais tout simplement que j'étais timide, que j'allais mourir timide et que ma vie allait être une souffrance. Une souffrance qu'on ne se rend même pas compte parce que de l'extérieur, les choses avaient l'air bien. J'avais un travail, j'avais un petit ami. Ça avait l'air bien, mais de l'intérieur, c'était un vrai cauchemar à vivre. Donc, voilà ma motivation profonde et voilà pourquoi aujourd'hui, ça continue à me faire bouger, à aller continuer à participer dans des études cliniques, à aller transmettre cette connaissance auprès d'entreprises de partout dans le monde. Parce que pour moi, les neurosciences, c'est une clé d'ouverture de notre esprit vers toute la richesse qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est vraiment comme si jusqu'ici, on savait très peu de nous. Et que d'un coup, les neurosciences commencent à donner sens à ce qui nous enferme, ce qui nous bloque, à nos croyances limitantes, à ce que c'est la réussite vraiment, comment on peut se construire la réussite qui nous correspond et qui va vraiment donner de la motivation, et comment aider les autres aussi à trouver ce qui les motive et se construire une vie autour de ça. Donc voilà, pour moi, aujourd'hui, le focus se retourne vers l'intérieur et les neurosciences viennent nous aider à mieux nous comprendre, nous, les êtres humains, des êtres très complexes, des mystères à dévoiler et... Voilà, on a besoin d'outils, on a besoin d'accompagnement, mais il y a toute une richesse à explorer.
Et justement, alors, merci beaucoup pour cette présentation. Et justement, tu nous as dit que tu as fait ce choix de soumettre ton cerveau à plus de 100 études cliniques. C'est hallucinant. Et donc, qu'est-ce qui... alors, tu nous as dit un peu ce qui t'a poussé à aller si loin dans cette exploration. Et ce qui m'intéresserait, c'est de savoir un peu justement quels ont été tes plus grands apprentissages sur notre fonctionnement humain au travers de cette expérience.
Pour moi, la plus grande découverte, c'était, il y a même un terme scientifique de cette notion qui est à l'intérieur de chacun de nous, ça s'appelle la neuroplasticité. Mmh. Et ça, c'est une notion, alors il faut savoir qu'aujourd'hui, ça paraît normal de dire notre cerveau peut se développer, peut évoluer, peut apprendre des choses tout au long de nos vies. Mais en 96, donc il y a 30 ans, si on demande aux gens ce qu'ils pensent de notre intelligence, la majorité des gens pensent que notre intelligence se développe, on va dire, dans la période scolaire. Et à partir de là, le niveau max est atteint et on peut plus rien faire. Si on est timide, on peut rien faire. Si on est bloqué, si on est discret, on peut rien faire. Et cette notion de neuroplasticité, pour moi, c'est un grand « wow » parce que tout simplement, ça montre qu'à toute étape de nos vies, à tout instant, on peut reprogrammer des choses, changer des choses, se libérer des charges du passé, des réactions qu'on a développées à cause de situations traumatisantes du passé, et ouvrir des portes pour aller chercher ce qui veut vraiment dire pour nous la réussite. La neuroplasticité, c'est une notion d'infini à l'intérieur de nous. À tout instant, notre cerveau peut se reprogrammer pour réagir différemment, expérimenter la réalité différemment, vivre les choses différemment. Donc, du point de vue des neurosciences, tout est possible pour chacun de nous.
Donc, nous avons un champ des possibles qui nous est ouvert grâce à tout cela. Et d'ailleurs, ça me fait penser, il y a une expérience qui m'a beaucoup plu dans ton livre. Où tu parles... tu vois laquelle?
J'imagine, je suis presque sûre de pouvoir deviner.
Donc, on se remet dans le contexte, hôpital Sainte-Anne. Et c'était une expérience où tu as reçu une dose de kétamine dans le cadre d'une étude clinique. Et donc, j'aimerais te demander, un petit peu que tu nous racontes cette expérience et qu'est-ce que ça t'a révélé sur la façon dont notre cerveau construit notre perception de la réalité et ça, quel est l'impact que ça peut avoir sur notre niveau de confiance.
Déjà, pour cette étude, j'ai mis pas mal de temps à me décider. Le titre de l'étude, c'était quelque chose autour de la psychose. Je ne me souviens plus le titre exact. Grosso modo, il voulait induire la psychose chez des sujets sains pour étudier le changement de perception. Et la kétamine, c'est une molécule qui vient perturber les connexions à longue distance dans nos cerveaux, qui fait que du coup, le chef d'orchestre, notre conscience est perturbée et on va avoir des changements de la pensée qu'on étudie pour l'instant. Donc, moi, j'ai mis du temps à me décider. La kétamine, il faut savoir, c'est quand même une molécule qui est sur le marché. Elle est utilisée à forte dose comme un anesthésiant. Et ouais. Moi-même, quand je travaillais sur les animaux, je l'ai utilisée sur mes animaux pour certaines expériences. Et je me suis dit, en fait, j'ai envie de savoir ce qu'ils ont vécu. Et j'ai envie de savoir ce qui se passe dans nos cerveaux quand on perturbe un petit peu la synchronisation de toutes les régions. Et donc, ce jour-là, je me retrouve à l'hôpital Sainte-Anne. Je ne sais pas si ça va être le placebo ou la molécule. Ils me mettent la perfusion. Moi, la seule chose que je me souviens, c'est avant de commencer l'expérience, que j'étais quand même très alourdie ce matin-là. J'avais pas mal de problèmes à gérer au niveau de mon business. Je me disais, je ne vais pas m'en sortir, comment on va faire? Et en fait, au moment où on me met la perfusion, au début, je ne sens rien. Même moi, je me souviens avoir dit à la chercheuse, j'ai dit, je pense que c'est le placebo. Et à un moment donné, elle me demande de me lever pour aller faire des tâches sur l'ordinateur. Ouais. C'est là où je comprends. Ce n'est pas le placebo et qu'il y a un changement de décor qui se passe. Et c'est là où ça commence à devenir intéressant. Je me mets sur ma chaise, d'un coup, la sensation d'être sur une moto. Bref, des changements de perception qui démarrent. Mais je vais réduire un peu tout ce récit pour t'amener à ce qui m'a le plus touché. Il y a eu vraiment deux prises de conscience. La première prise de conscience, c'est que d'un coup, je me suis retrouvée dans un espace à l'intérieur de moi où la notion de problème n'existait plus. C'est comme si le fait de perturber le mental, ça perturbait toutes les constructions que notre mémoire, notre conscience a pu construire, notre histoire de vie. Et d'un coup, je me retrouvais dans un espace de pure joie. Mais quand je dis la joie, c'est pas la joie excitée, c'est la joie où on contemple l'expérience telle qu'elle est, on reçoit la réalité telle qu'elle est. Et je me suis dit, en fait, c'est intéressant. Ça veut dire que nos problèmes, ce sont des constructions mentales. Et nos manques de confiance sont également des constructions mentales. Donc, tout ça, ce sont des notions que notre mental a construites. Et la bonne nouvelle, c'est que puisque c'est notre mental qui les a construits, ça nous appartient de les déconstruire. Donc, il y a vraiment cette puissance qui s'ouvre à l'intérieur de nous de se dire, oui, les problèmes existent dans nos têtes, mais comme c'est dans nos têtes, on peut s'en libérer. Donc, première porte de liberté. Deuxième constatation au cours de l'expérience, c'est que, alors, je pense que toi, tu connais la notion de test de personnalité DISC. Tu vois les quatre couleurs. Je ne sais pas si tout le monde connaît des personnes qui nous écoutent. Vous pouvez taper DISC pour vous renseigner à quoi ça correspond plus en détail. Mais grosso modo, c'est un test qui est basé sur l'idée qu'il y a quatre grandes facettes à l'intérieur de nous. Des rouges, des bleus, des jaunes et des verts. Donc, ça, on parle en couleurs quand on parle de cette approche. Et je me suis rendu compte que sous kétamine, j'étais dans cet espace où je voyais carrément mes quatre facettes d'un coup. Alors, quand on parle de psychose, on parle de dédoublement de la personnalité. Moi, j'en ai eu quatre qui étaient là. Et étonnamment, c'était les quatre facettes, vraiment comme personnalité, ça correspondait aux quatre couleurs. Donc, j'avais une qui s'amusait, donc la partie un peu jaune, qui me regardait l'expérience, qui s'amusait, qui se disait « mais c'est drôle tout ça, c'est marrant ». Il y avait la partie un peu verte, je la voyais même, bon, là on est sous kétamine, donc je la voyais un peu à l'extérieur de moi, sur la droite en bas. Et puis, elle était plutôt inquiète. Elle me disait, mais mince, est-ce qu'on va revenir à la normale? Et puis, de l'autre côté, j'avais une partie de moi qui était méga engagée dans l'action. Donc là, j'étais en mode rouge. Bon, il y a des tâches sur l'ordi, on va les faire. Et puis, j'avais ma partie bleue qui était en train de réfléchir. Je suis sur une chaise, je réfléchis, j'analyse. C'était très marrant de constater ça. C'est comme si, d'un coup, j'étais plus la facette à laquelle je m'identifie en temps normal, quand je suis identifiée à mon histoire de vie, mais j'étais dans cet espace où des facettes opposées de moi coexistent. C'est un espace paradoxal qui existe à l'intérieur de chacun de nous. En temps normal, on ne le voit pas parce qu'il y a le chef d'orchestre qui fait ressortir qu'une partie de nous sur scène. Et donc, on se voit jouer soit la personne un peu drôle qui connecte avec tout le monde, soit la personne un peu discrète, soit la personne droit dans l'action, soit la personne qui analyse la situation. Mais d'un coup, quand on se retrouve dans cet espace de désidentification, on n'a aucune des quatre facettes et on a accès à ces quatre facettes, on se retrouve dans un espace de maîtrise des paradoxes à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Donc, pour moi, c'est vraiment cet espace que j'essaye d'apprivoiser depuis, sans kétamine. Je précise, tout ce que je vais dire concernant les études où j'ai pris des molécules, je ne conseille pas ces molécules. C'était une expérience pour aller voir ce qui existe à l'intérieur de nous. Oui. Et pour aller chercher à le reproduire ensuite de manière cognitive. Donc voilà, depuis je me suis beaucoup renseignée sur le disque et je l'utilise énormément pour moi et pour les autres pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui débloque des situations où on est bloqué parce que souvent, un blocage, on est rattaché à une facette de nous, donc à une de ces quatre couleurs. Et souvent, dans chaque blocage, il y a une couleur qui débloque le blocage. Donc rien que de se poser la question, c'est quoi la facette qui va m'aider à mieux gérer cette situation ? Hop, ça ouvre les possibles et ça nous débloque dans une situation bloquée. Voilà, je vais m'arrêter à ça parce qu'on peut parler des heures de cette étude, mais voilà, c'était le plus intéressant.
Mais c'est génial parce que alors, j'essaie de faire un résumé par rapport à un message qui me semble vraiment ultra important, c'est qu'en fait, il y a les situations, il y a un filtre de perception qui passe au milieu et qui va créer, en associant les deux, une expérience vécue.
Exactement.
Et donc, la situation en elle-même, on ne peut pas la changer. Par contre, ce qui va créer les grandes différences, c'est la perception de la situation. Et donc, au travers de cette expérience, tu as pu expérimenter, entre guillemets, la joie sans cause.
Mm-hmm. Inconditionnelle.
La joie inconditionnelle. Et d'ailleurs, alors, tu vas me dire si tu me rejoins là-dessus, mais quand vous ne pensez à rien, ça arrive, hein, des fois pas souvent pour certains, et quand on ne pense à rien, observez comment vous vous sentez.
Pour ajouter peut-être un élément, moi je le dis souvent en conférence, notre état de base, c'est la joie. Pas la joie excitée quand on gagne quelque chose, mais la joie de l'enfant qui, quand ses besoins sont satisfaits, il est juste en train de s'émerveiller devant le monde. Et ça, c'est notre état de base qu'on a perdu parce qu'on a construit tellement de « il faut » ou « j'ai peur d'eux » et du coup, ça filtre la joie et on la vit moins longtemps. Mais elle est toujours là.
Exactement ça, j'adore. Merci beaucoup. Avant qu'on rentre vraiment sur les conseils managériaux, j'aimerais aussi que tu nous parles d'une autre anecdote, parce que je pense qu'elle va vraiment nous permettre de bien comprendre aussi ce qu'il y a derrière cette notion de confiance. Tu parles à un moment d'un échange que tu as eu avec David Laroche, qui est un coach bien connu, et tu lui as demandé « quand est-ce que je serai prête à réaliser mon rêve ?» Et là, il t'a répondu, il t'a dit « tu ne seras jamais prête comme tu l'imagines, Donc, développe le courage et passe à l'action.
J'ai détesté
donc,
ça.
Apparemment, il y a eu un électrochoc là. Donc, qu'est-ce que ça t'a appris, notamment sur la confiance ou sur ta confiance?
Ça a révélé quelque chose qui est un grand piège pour nous tous. Et je pense qu'à ce moment-là, il a bien senti que j'étais partie dans ce piège-là. C'est le piège de se dire, je vais continuer à apprendre, je vais continuer à chercher à comprendre, à débloquer mes croyances limitantes, à réfléchir sur qui je suis avant de passer à l'action. Et en fait, des fois, quand on démarre le travail sur soi, donc c'est très important de commencer à comprendre qui on est, c'est quoi nos valeurs, ce qui nous motive. Mais il y a des gens qui restent là-dedans et ils vont se construire un rêve, ils vont se stimuler, ils vont le visualiser, ça va les stimuler, ils vont se dire « un jour, je serai comme ça ». Et ils vont se bloquer dans cette phase qui est la phase d'excitation de tout changement. Alors, je ne sais plus comment on appelait cette courbe, peut-être que tu vas m'aider. Tu sais, il y a la courbe, c'est peut-être l'effet Dunning-Kruger. Oui. Où quand oui. On commence à apprendre une nouvelle compétence ou on se lance dans quelque chose de nouveau, au début, il y a une phase d'excitation. Cette excitation est vraiment due à la pensée qui nous excite en se disant « un jour, j'aurai ça, un jour, je serai pianiste, un jour, je serai ça ». Et dans cette phase-là, il y a beaucoup d'énergie et les gens, ils l'adorent. Nos cerveaux, ils adorent ça. Et des fois, on reste bloqué dans cette phase qui est dans la tête. C'est juste la pensée qui s'excite elle-même. Et ensuite, dans cette même courbe, on rentre dans la vraie réalité, on se met à passer à l'action et on va affronter la réalité avec sa dureté. Dans la courbe, on l'appelle la vallée des larmes, si je me souviens bien.
Oui, la vallée d'humilité, tout à fait.
D'humilité, voilà. Mais ça pleure là-bas. c'est le moment où, pour moi, c'était la première action, c'était d'organiser. Je voulais devenir conférencière alors que j'étais vraiment timide. Et la première action, c'était d'organiser un atelier où c'est un ami qui m'a aidé. Donc, c'est lui qui a communiqué que je faisais un atelier. Il y a 3 personnes qui ont décidé de venir. Au bout de 15 minutes, il y en a une qui m'a dit qu'elle devait repartir. Elle s'est excusée en disant « je dois y aller, désolée ». C'était la vallée de l'humilité pleine de larmes où on se rend compte que l'action n'est pas facile, mais c'est vraiment dans l'action où on va commencer à construire des choses. Pour nos cerveaux, la pensée, c'est potentiel, c'est une probabilité, mais dès qu'on a vécu quelque chose dans le corps, ça devient réel. Donc, sans toutes les actions que j'ai mises en place depuis que David Laroche m'a dit « passe à l'action », s'il n'y avait pas toutes les actions que j'ai mises en place, aujourd'hui, je serais potentiellement capable de commander ma baguette, mais pas plus loin que ça. Alors, vraiment, l'action, il faut vivre dans notre corps la réalité pour que ça devienne factuel pour nos têtes. Sinon, c'est une réalité potentielle et ça ne nous permet pas d'avoir la confiance qu'on veut. La vraie confiance, c'est dans l'action. Qu'on foire ou pas, qu'on échoue ou pas, la vraie confiance vient de « je l'ai fait ».
Justement, tu nous dis que c'est les mêmes neurones qui participent au niveau de confiance et à la décision d'agir. Tu viens justement d'en parler. Est-ce que ça veut dire que la confiance, au fond, c'est une autorisation cérébrale de passer à l'action?
Alors, j'irai même plus loin. On peut même dire que... Parce que comment ils font nos cerveaux? Nos cerveaux, c'est des machines de prédiction. Quand on demande de faire une action future, ils vont sonder le passé, donc ils vont se rappeler de ce qu'on a fait dans le passé. Si l'action est déjà faite, ils vont se dire « ok, tu y vas, ça va bien se passer, donc on peut prédire un résultat plutôt favorable ». Et s'il n'arrive pas à trouver quelque chose dans le passé qu'on a fait, le risque de ne pas réussir dans le futur est grand. Et donc, pour lui, il va nous signaler qu'il n'y a pas raison d'avoir confiance sur quelque chose qu'on n'a jamais fait. Et en fait, beaucoup de gens se bloquent à ce niveau de confiance qui, pour moi, est le premier niveau de confiance qui nous permet, en fait, c'est le niveau de confiance qu'on accumule à force de faire la même action. Donc, si tous les jours je cuisine, à un moment donné, je suis très confiante que je sais cuisiner parce que j'ai suffisamment de données qui sont accumulées et mon cerveau va prédire que ça va plutôt bien se passer la prochaine fois. Mais ce niveau de confiance, c'est le basique. Il est basé que sur nos compétences et il nous bloque dans notre zone de confort. Si on attend que la confiance a que ça comme goût, cette sensation de « ok, je l'ai déjà fait, donc je peux le faire », on ne va pas faire beaucoup de choses en dehors de notre zone de confort. Et c'est là où ça devient intéressant d'aller, et c'est ce que je décris aussi dans mon livre, d'aller explorer les autres niveaux de confiance. C'est d'aller explorer le deuxième niveau de confiance qui est « moi, je n'ai pas la compétence, je sais que je ne l'ai jamais fait, mais par contre, je sais que je vais pouvoir créer des relations suffisamment qualitatives autour de moi avec les gens qui vont m'entourer pour que je puisse aller chercher la compétence et la confiance chez eux. Donc, je peux m'appuyer sur eux quand je ne sais pas faire. » Et puis, le dernier niveau de confiance qui, pour moi, est le plus élevé, c'est dans l'incertitude. Quand moi, j'ai pas les ressources, quand aucune personne autour de moi a les ressources, sur quoi de plus grand que moi je peux m'appuyer pour avoir une confiance inconditionnelle? Donc, quoi qu'il arrive, je sais que ça va bien se passer parce qu'il y a quelque chose de plus grand que moi qui va me guider. Donc voilà, c'est vraiment les trois niveaux de confiance qui, pour moi, sont importants à développer et surtout pas se bloquer au premier.
Tout à fait. C'est très intéressant parce que, d'ailleurs, si tu regardes, je prends un exemple sur le deuxième, tu vois, niveau de confiance. Quand on ne sait pas, en effet, on peut aller chercher les compétences autour de soi et regarder un réflexe tout bête, des fois, c'est d'aller chercher un tuto, d'aller chercher un tutoriel, d'aller chercher quelqu'un qui sait faire et qui nous montre comment faire. Et on se dit, ah ben tiens, le fait de voir faire, on se dit, ah ben finalement, j'en serais peut-être capable. C'est finalement des mécanismes tout à fait instinctifs et logiques que l'on met en place, mais ça devient encore plus puissant quand justement on a conscience de cela et qu'on va aller les chercher sciemment.
Exactement. Énormément de gens qui ont développé des compétences parce qu'ils ont été inspirés par quelqu'un, qui ont vu à la télé, sur YouTube, etc. Donc voilà, il faut vraiment puiser des ressources là-dedans.
Complètement. Alors justement, imaginons que je sois manager, puisque nous avons ici des managers, des dirigeants, des RH qui nous écoutent, et j'ai un collaborateur, il manque de confiance. On voit qu'il est bloqué, il n'arrive pas à prendre des initiatives. Donc, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui se passe dans son cerveau, comment on le décrypte, et qu'est-ce que le manager peut faire, et aussi éviter de faire, pour l'aider à débloquer et avancer?
Dans nos cerveaux, et ça nous concerne tous, mais ça se voit encore plus chez ce type de personne que tu viens de décrire, dans nos cerveaux, il y a deux mécanismes que je vais viser sur cette question-là. Le premier, c'est un biais qui nous concerne tous. C'est le biais de la négativité. C'est quelque chose qu'on a hérité. Nos cerveaux, ce sont des cerveaux de gens qui ont survécu quand c'était très difficile à l'extérieur. C'était super important de prêter attention aux problèmes, aux dangers et d'être négatif. C'était un signe de survie. Et ce schéma, il est encore dans nos têtes. Donc, on est des descendants de ceux qui ont survécu. Et si on ne fait pas bouger ce schéma, c'est lui qui fait des pensées constamment négatives. Moi, à l'époque, quand j'étais vraiment très, très, très timide, je pensais que ces pensées, c'était des vérités. Et donc, tout ce que mon cerveau me racontait, comme quoi j'étais pas assez compétente, pas méritante et je ne sais pas quoi. Donc, toutes ces pensées, moi, je m'y attachais. Et donc, les gens qui doutent d'eux-mêmes, ils n'arrivent pas à faire la distinction entre le vrai et le faux de leurs pensées. Donc, il y a ce premier mécanisme de négativité. Et puis, il y a un deuxième mécanisme qui est que nos cerveaux sont majoritairement inconscients. Donc, les processus dans nos cerveaux sont à 95% inconscientes. Ça consomme beaucoup d'énergie de mettre les choses en conscience. Donc, pour la plupart des processus, on ne les voit pas. Ça reste en dessous de la partie visible de l'iceberg. Et c'est 95% de nous. Donc, une énorme partie à explorer à l'intérieur de nous. Et souvent, les gens, ils sont inconscients de leurs forces, de leurs talents, de ce qu'ils font bien. Et quand on ne prend pas le temps d'aller plonger en dessous de l'eau et aller vérifier quelles sont nos forces, on ne les connaît pas. Et donc, du coup, on est rattrapé dans les pensées négatives et on pense que c'est que ça et qu'on ne mérite pas de l'attention ou quoi que ce soit. Et donc, un manager qui se retrouve face à quelqu'un qui a deux mécanismes qui lui perturbent son existence, la première des choses à commencer à faire, c'est le feedback positif. Il faut que le manager devienne cette partie de la personne qui ne fait pas le travail et qu'il commence à lui refléter ce que la personne fait du bien. De manière authentique, bien sûr, on ne va pas chercher juste à caresser dans le sens du poil. On va chercher à lui montrer spécifiquement dans quelle situation, c'est quoi la force qu'elle a amenée, c'est quoi la chose qu'elle a apportée pour que ça fasse bouger la situation. Et donc, on va charger la personne en feedback positif jusqu'à ce qu'on arrive à créer cette fondation chez elle où elle arrive à valider par elle-même. C'est bon, j'apporte de la valeur et je vois clairement qui je suis et ce que j'apporte. À partir de là, on va pouvoir commencer à travailler sur l'évolution, sur les faiblesses, etc. Mais s'il n'y a pas cette fondation, cette conscience de qui je suis et qu'est-ce que j'apporte de bien, on ne peut rien faire avec la personne, elle est trop fragile. Donc, on va commencer par ça, stimuler la conscience de la personne, de qui elle est, de ce qu'elle apporte.
Je suis fan. Au final, on peut ainsi, en effet, favoriser la prise de conscience de ses forces et aider à construire le niveau de confiance de la personne. Donc, c'est absolument génial. Alors, justement, comment un manager peut créer les conditions cérébrales de la confiance dans son équipe. Je pense que tu nous as déjà donné des pistes. Mmh. Mais j'aimerais qu'on rajoute un axe de difficulté. C'est-à-dire, mmh. imaginons, on est dans une période d'incertitude, de problèmes, mmh. de risques, de changements ou de fortes exigences. Mmh. Et là, forcément, il y a le doute qui s'installe. Donc, comment un manager peut créer cette condition de confiance collective dans ces moments-là?
Déjà, il faut s'imaginer ce que nos cerveaux vivent quand il y a des incertitudes. Nos cerveaux qui adorent prédire, d'un coup, ils se retrouvent à ne plus pouvoir prédire. Il y a trop de facteurs, c'est imprévisible. Et donc, ça crée vraiment une sensation émotionnelle à l'intérieur de nos cerveaux. Mmh. Il y a la structure qui s'appelle amygdale qui est au centre de nos cerveaux, pas les amygdales dans la gorge, mais l'amygdale qui est au niveau du cerveau, qui, elle va constamment scanner l'environnement pour des nouveautés. Bon, elle est faite pour le danger, sauf que l'incertitude et le changement, c'est une nouveauté et c'est un danger pour elle. Dès que l'amygdale s'active, ça crée une alarme incendie dans nos têtes et ça bloque le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal étant la partie de nous qui nous permet de trouver des solutions, de trouver des stratégies, être créatif. Et donc, si vos équipes se retrouvent dans un environnement d'incertitude, il y a beaucoup de cerveaux qui sont en mode incendie. Et vous essayez de parler avec eux et ça ne marche pas parce qu'ils sont en mode émotionnel. Et quand on est émotionnel, on ne peut pas être rationnel à la fois. Donc, première chose à faire, c'est de créer un espace où les gens peuvent parler de ça, parler de leurs émotions. Les émotions, la gestion des émotions, elle est simple. On cherche à trouver des solutions pour gérer ça. Mais en fait, une émotion, elle demande juste à être vue, validée et acceptée telle qu'elle est. Donc, la seule chose à faire, c'est de créer un espace d'écoute où les gens peuvent déjà verbaliser c'est quoi leur peur, qu'est-ce qu'ils ont peur de perdre, est-ce que c'est leur statut, est-ce que c'est leur professionnel, la sensation d'être professionnel, est-ce que c'est une identité qui change. Bref, juste mettre des mots là-dessus. Et vous, la seule chose que vous avez à faire, c'est de dire « je t'entends, je suis désolée que tu le vives comme ça, moi aussi peut-être que je vive des choses comme ça ». Bref, on crée un espace dans lequel on peut être humain, on peut être nous-mêmes et laisser nos émotions exister. Laisser nos émotions exister, ça ne veut pas dire tourner dans la machine à laver de nos émotions, c'est juste on les accueille, on les voit, on dit « est-ce que bon, tu es plutôt dans la peur, c'est quoi, c'est plutôt de la tristesse ?» C'est tout. Rien que de mettre un mot sur l'émotion, il y a des études qui montrent que ça calme l'amygdale, donc cette partie de nous qui est l'alarme incendie. Donc ça, pour moi, c'est la première étape, c'est l'écoute, un espace d'écoute. Et ensuite, la deuxième étape, c'est un peu ce qu'ils font dans les Navy SEALs, comment on traduit ça en français, c'est les marins, c'est les...
Oui, c'est les marins.
L'armée.
L'armée
marine, peut-être. Navy SEALs, c'est juste les Américains. Donc, ils ont plein de protocoles pour gérer les incertitudes hein, quand ils se retrouvent souvent dans des situations comme ça. Et donc, j'ai beaucoup aimé, c'est quelqu'un qui expliquait que ce qu'ils font chez eux, ils ne vont pas surplanifier parce que la surplanification, ça va paralyser les équipes. Par contre, ils vont distinguer 5 grandes phases du processus qui est à venir. Imaginez que là, vous démarrez quelque chose sur 18 mois. C'est quoi les 5 grandes phases? Idéalement, vous le faites en collectif. Donc, c'est quoi nos 5 grands passages pour que ce changement réussisse? Et puis, dans chaque phase, ils vont se mettre à identifier les 3 potentiels dangers et comment on les gère. Donc, 5 grandes phases, 3 potentiels dangers, comment on les gère? On ne sait pas si ça va se produire, mais rien que de le faire, ça rassure les cerveaux de tout le monde. On se dit, on a quelques repères certains sur lesquels on peut s'appuyer. Du coup, on peut avancer dans le changement parce qu'on a quelques certitudes dans l'incertitude. Ça aide énormément le cerveau.
Complètement. Et d'ailleurs, je vais faire un parallèle, j'en profite, parce que c'est une stratégie qui est utilisée pas mal en entreprise aussi, sur la gestion de risque, et qui est absolument mm-hmm. géniale. Alors, il y a des domaines comme par exemple les plateformes pétrolières, où c'est ultra développé, parce que il faut qu'on sache exactement quoi faire si telle chose se produit, parce que si on y a mm-hmm. un grand danger, ou dans les avions, etc. Mais je vous invite notamment, en tant que dirigeant, par exemple, avec votre CODIR, en début d'année, de se dire « Ok, on a nos objectifs. » Et moi, j'appelle ça la stratégie d'évitement des icebergs. C'est-à-dire qu'on se mm-hmm. dit « C'est quoi tous les pires problèmes qui peuvent survenir pendant l'année ?» Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Et en effet, le fait de les anticiper avant, on va augmenter certes nos niveaux de réactivité si ça se produit, mais en plus de ça, notre sérénité, parce qu'on se dit qu'on sait faire si besoin. J'aime beaucoup ton exemple parce que vraiment on voit concrètement l'efficacité et ça marche très très bien. Alors tiens, on parlait de pression. Est-ce que il faut mettre un peu de pression pour obtenir de la performance? Donc déjà dans notre cerveau, si je te mets de la pression, qu'est-ce qui se passe? Et à quel moment, ben, au contraire, cette pression va bloquer le cerveau plutôt que de nous motiver?
Alors, ça, c'est une question super intéressante et je suis heureuse que les sciences commencent à remettre en question des croyances qu'on avait avant par rapport au stress et la pression. Aujourd'hui, il y a des études qui nous montrent que le stress, il peut avoir des effets négatifs, mais il peut avoir aussi des effets positifs sur la performance. Et dans une étude même, ils vont juste faire lire à des participants un paragraphe qui parle soit des impacts négatifs que le stress peut avoir, ou à un autre groupe de participants qui vont lire un paragraphe sur les effets positifs du stress. Et en fait, ils vont pas vivre ils vont pas expérimenter le stress de la même manière après. Le premier groupe, il va vivre vraiment les effets négatifs, et le deuxième groupe, il va vivre les effets positifs du stress. Donc, c'est incroyable de se dire, même face au stress, c'est notre lecture de la réalité qui va déterminer comment on va le vivre. Oui. Donc, c'est bien à savoir. Maintenant, on s'imagine le dirigeant qui est face à son équipe où les gens ont des lectures différentes du stress. Il y en a plein qui sont dans la croyance collective, le stress est mauvais. Donc ça, c'est la croyance qu'on essaye de transformer petit à petit et rendre plus flexible, de se dire non, il peut être les deux à la fois en fonction de ce qu'on attend du stress. Et donc, premier élément qui va déterminer la quantité de stress et de pression qu'on peut vivre, c'est quelle est la lecture que je fais à l'idée d'être sous stress. Si on présuppose que la majorité des gens sont encore sous la lecture de stress est mauvais, il va falloir peut-être qu'on les rééduque, qu'on leur dise que une petite quantité de stress ou une stress ponctuelle, c'est plutôt une bonne chose parce qu'il met le corps, d'ailleurs, si on étudie la biochimie du corps sous stress, le corps, les muscles sont plus tendus et on est vraiment dans un état d'être au taquet. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui vont procrastiner et vont attendre à la deadline pour qu'ils puissent se mettre dans l'état de stress qui va les faire produire le résultat qu'ils veulent. Et ils n'arrivent pas à produire un bon résultat s'ils se mettent trop en avance. Donc, il y a un vrai bénéfice. Moi-même, je l'utilise de me rapprocher du délai qui m'est donné pour que tout mon système soit mis dans un état de focus augmenté, dans un état de tension suffisante pour que je sois vraiment sur la question et que je produise une idée qui est meilleure qu'un temps normal. Il y a ça. Et puis, il y a aussi l'entraînement des gens autour de nous. Donc, comment ils lisent la réalité du stress, mais à quel point ils sont entraînés à vivre le stress. Moi, à l'époque... Pour moi, la lecture du stress, c'était « il ne faut pas du stress, il faut surtout que j'évite les situations du stress ». Donc, la moindre demande, je ne sais pas, si on me demande une présentation dans la semaine, j'ai l'impression que je n'aurai pas assez de temps pour la préparer. Aujourd'hui, mon entraînement et avec le fait que ma vie, elle est beaucoup plus dynamique et que je cherche cet état de stress volontairement parce que je sais qu'il est très productif et il augmente ma performance. Donc aujourd'hui, j'aime qu'on me mette du stress et ma tolérance au stress, elle est très élevée. Mais ce n'est pas le cas de beaucoup de gens. Donc, typiquement, si on est manager et qu'on veut trouver le bon dosage de stress, c'est une question individuelle déjà. Il faut le faire avec chaque collaborateur, voir quelle est sa tolérance, sa lecture du stress. Et peut-être, pourquoi pas, en parler un petit peu, éduquer l'équipe que travailler sous stress, c'est une bonne chose. Leur donner un peu le goût de cette sensation. Sans pour cela abuser, hein, parce que le stress chronique n'est pas bon du tout, mais le stress aigu sur des projets ponctuels, ça augmente la créativité et la performance.
Tout à fait. Et je me permets de faire le lien avec ce que tu as fait tout à l'heure. Un des moyens qui va peut-être aider, tu me dis si tu confirmes, c'est justement le feedback derrière et aussi la gratification, alors pas forcément les récompenses, mais tout simplement le fait de célébrer, de remercier, de féliciter sur la performance, d'avoir surmonté cette épreuve et d'avoir réussi.
Exactement. Je suis en train de lire, c'est des revues de Business Harvard School, qui démontrent que beaucoup de managers ne se rendent pas compte, mais un élément qui induit des états positifs émotionnellement parlant chez les collaborateurs, c'est de remarquer les petites victoires. C'est de créer vraiment de l'espace où on parle de ces petites victoires, on les mentionne, on les voit. Et c'est ça qui va stimuler un état dans lequel on est tellement euphorique, on est tellement content que les choses avancent, que le stress, en fait, ça devient un équilibre entre l'euphorie et l'enthousiasme et le stress de l'autre côté. Et on va peut-être même pas dire qu'on est sous stress, on va dire qu'on est excité sur ce projet. Est-ce que ça avance? On voit les étapes avancer. Donc, voilà, il faut jouer avec ces petits outils pour stimuler les gens.
Complètement. Alors, on parlait tout à l'heure de confiance collective. Mm-hmm. Est-ce que tu aurais des tips à nous proposer, puisque tu nous disais qu'on peut s'appuyer sur les autres, hein, pour développer notre niveau de confiance. Donc, est-ce que tu aurais des tips qu'un manager peut mettre en place avec son équipe pour faire en sorte que l'équipe devienne elle-même une source de confiance pour chacun, qu'on grandisse mutuellement dans notre niveau de confiance?
Oui, c'est une vraie question à se poser parce qu'il y a des mécanismes à l'intérieur de nous qui sont là et qui font pas que si on met des gens juste ensemble, ça suffit pas pour créer un collectif. Il faut vraiment faire des choses pour que la mayonnaise prenne. Tout à l'heure, je réfléchissais sur la question et je me suis dit, en fait, il y a deux mécanismes qui nous piègent et qui font qu'on a peur quand on est en groupe. Il y a ceux qui aiment pas vraiment être en groupe parce que ça les fatigue beaucoup. Et puis, il y a ceux qui sont plutôt à l'aise en groupe, mais qui vont quand même se fatiguer dans ces mécanismes si jamais les mécanismes sont pas neutralisés. Le premier mécanisme, c'est que nos cerveaux, la peur du rejet, elle déclenche carrément une signature de douleur dans nos têtes. C'est-à-dire qu'elle enclenche le même schéma qui est associé avec la douleur. Donc, quand on se fait rejeter, c'est douloureux pour nous. Et dans une équipe où, si je pars demander de l'aide à mon collègue et qu'il me refuse une fois, il me refuse deux fois, ou il dit qu'il n'a pas le temps, moi, je vais avoir peur et je ne vais pas continuer à aller demander de l'aide à mon coéquipier. Et donc, du point de vue du manager, comment gérer la peur du rejet? C'est à lui de mettre la priorité, parce que là, on est vraiment sur un équilibre. Est-ce que la priorité, c'est l'efficacité des gens? Et donc, du coup, personne n'aura temps pour les autres. Chacun fera son truc pour réussir ses résultats individuellement. Ou est-ce que je mets la priorité sur le collectif et le fait qu'ils échangent entre eux, qu'ils ont des espaces où ils peuvent s'inspirer les uns les autres par rapport à leur réussite? Et donc, c'est le manager qui va donner la tonalité. Qu'est-ce qui est plus important pour ce groupe? Est-ce qu'on met en priorité les échanges ou on met en priorité les résultats? Parce que si je fais pas ça, mes collaborateurs vont être en mode « j'ai pas le temps » et donc ils vont pas pouvoir se parler. Et voilà, c'est le premier truc qui va limiter ma cohésion. Et puis, un deuxième élément qui est difficile pour nos cerveaux, c'est les jugements. Nous sommes tous différents, comme nous avons des essences similaires, mais nous sommes tous différents si on regarde au niveau individuel. Et dès qu'on a des individus ensemble, on va commencer à dire « lui, il n'est pas comme moi, il est comme ci, comme ça ». C'est naturel, on voit nos différences, donc nos cerveaux, ils les voient en premier. Et puis, nos cerveaux, ils ont peur un peu des différences des autres parce qu'ils se disent « l'autre, il est différent de moi, il ne va pas me comprendre ». Donc, ça crée de l'insécurité psychologique. Et puis, ça crée de la séparation. Donc, les similaires vont se mettre dans le coin de l'équipe et les autres qui ne sont pas similaires de l'autre coin. Alors, le manager, il a pour rôle de créer de l'empathie. L'empathie, si je dois la résumer comme mécanisme, donc on ne va pas rentrer dans les études et comment l'étudier, mais grosso modo, nos cerveaux, quand ils voient quelqu'un qui est comme moi, qui fait partie du même groupe que moi, ils vont créer un signal d'empathie. Donc, un signal va s'activer, donc on va pouvoir mesurer l'empathie. Mais si je vois quelqu'un, donc vous imaginez, l'étude a été faite avec des vidéos, si je vois quelqu'un qui ne fait pas partie du même groupe que moi, ma réponse subconsciente va éteindre l'empathie. C'est-à-dire que ce n'est même pas une décision de ne pas voir l'autre comme moi et de ne pas être avec lui, c'est mon cerveau qui me dit « il n'est pas comme toi, pas d'empathie », donc séparation. Et c'est tout. Donc si on peut résumer l'empathie, c'est sous ces deux mots-là, « comme moi », donc « il est comme moi »,« ils sont comme moi ». Et pour créer cette sensation de « comme moi » dans une équipe, bien sûr, on ne peut pas se baser sur les caractéristiques individuelles ou les valeurs individuelles des gens, mais on le fait sur des éléments qui vont regrouper l'équipe. Ça peut être les valeurs de l'équipe, mais qu'il faut qu'on incarne individuellement, parce que, je ne sais pas, la valeur fraternité ne veut pas dire la même chose pour moi que pour l'autre, donc il va falloir qu'il y ait vraiment un espace où je vois pour moi ce que ça veut dire et je le fasse me toucher. Il y a la vision collective qui, pareil, on la crée de manière collective, donc on est tous sur la même vision, mais ensuite, il faut qu'on se l'approprie individuellement pour que ça fasse une connexion émotionnelle pour chacun, donc que chacun y voit du sens, y mette ses propres mots là-dessus. Et puis, moi, ce que j'aime bien, et je pense que c'est l'empathie la plus puissante, et c'est celle que j'essaye de pratiquer à chaque fois, c'est quand on est dans un collectif et qu'on est face à un problème. Le problème, c'est un prétexte idéal pour créer de l'empathie. Si on arrive à bien recadrer, reformuler le problème et mettre tout le monde du même côté de la table face au problème, donc il y a nous tous contre le problème, donc il y a moi et toi contre le problème, ça c'est de l'empathie déjà, il y a toute l'équipe est contre le problème parce qu'il y a une procédure qui ne marche pas et qui a fait que ça a échoué. Et donc nous tous, on va réfléchir à quelle est cette procédure qui nous a tous fait échouer. Donc, utiliser les problèmes pour créer de l'empathie pour que l'équipe puisse vraiment être unie dans la difficulté et puis unie aussi dans la joie de la vision collective, le rêve collectif qu'on va atteindre ensemble. Ça, c'est indispensable. Sinon, il n'y a pas vraiment de collectif. Il y a des gens mis ensemble pour faire des tâches, mais qui n'ont pas de sens profond. Donc, c'est le travail du manager, c'est de créer cette mayonnaise où on est tous un contre quelque chose, où on est tous un pour quelque chose.
J'adore. Tu vois, j'étais en train de me dire que voilà, la dernière question là, que je voulais te poser, c'était qu'est-ce que un manager peut mettre en place pour créer davantage de confiance justement au sein de son équipe dès maintenant. Est-ce que pour toi, c'est justement ce côté tous ensemble, tous unis contre l'adversité, ou est-ce que tu vois peut-être une autre première pratique à mettre en place pour aller dans ce sens-là?
On va dire que ça, c'est l'idéal. Moi, je suis un peu idéaliste, donc je rêve d'équipe où ça prend comme ça et ça marche, mais en réalité, c'est plus difficile que ça. Et il y a souvent une ou deux personnes qui adhèrent pas forcément à toute la vision collective. Pour moi, pour réduire cette idée à un petit pas, le premier petit pas, c'est de créer un point d'ancrage. Quand je dis un point d'ancrage, c'est que chacun puisse avoir son ancre. Vous pouvez imaginer que dans une situation difficile, on est un peu comme un bateau dans un océan. On est en pleine mer, le bateau en pleine mer, ça secoue dans tous les sens. Et en fait, ce dont on a besoin dans ces situations-là, c'est un seul ancre humain qui va nous permettre de nous accrocher pour que même si ça secoue, on est quand même tout nu, on se sent en sécurité. Et pour moi, si on peut réduire cet idéal d'empathie entre tout le monde et que tout le monde soit uni ensemble, se sent uni, le premier élément, ça serait, est-ce que chacun de mes membres, mes coéquipiers, ils ont leur ancre? Idéalement, si le manager peut devenir cette ancre pour chacun d'eux, je pense que c'est l'idéal parce que ça fait un peu le chef d'orchestre. Mais des fois, c'est juste m'assurer que, je ne sais pas, mon alternant, il a trouvé son ancre chez quelqu'un qui joue le rôle de mentor chez lui et ça suffit. Donc comme ça, on crée de la sécurité psychologique et peu importe les doutes, peu importe les peurs des gens, ils peuvent continuer à avancer dans la sécurité. Ils peuvent continuer à se dire, OK, ça, je fais bien, ça, c'est amélioré. Donc, dans cet espace de sécurité, on peut vraiment ouvrir nos entrailles et commencer à voir qui je suis et qu'est-ce que je peux développer chez moi. Chez moi, je voulais juste, en réfléchissant à cette question, je voulais juste remercier une personne qui a été mon premier ancre quand j'ai décidé de passer de la timide et aller poursuivre mes rêves, ce qui paraissait une folie aux yeux de ma famille, aux yeux de plein de personnes autour de moi. Mais j'ai trouvé une ancre à l'Institut Pasteur. C'est une personne qui s'appelle Kartik, qui était un chercheur de l'autre équipe et qui, lui, il m'a accueilli comme je suis, avec mon rêve qui peut paraître fou pour certains, mais il le soutenait, et qui est devenue la personne qui me permet de réfléchir sur moi, qui me permet de faire vivre mon rêve et de développer des qualités et même de faire mes premières présentations. Je commençais à faire des interviews et des présentations à Pasteur. Et sans cette personne, je pense, ça aurait été difficile parce que j'avais plein de mentors, David Laroche et d'autres personnes qui m'inspiraient sur YouTube. Mais en même temps, dans la réalité, si on n'a pas une vraie personne qui nous montre qu'on est stable, il sera toujours là, peu importe si on tombe ou que les autres se moquent de nous. Sans cette personne, c'est difficile. Donc, une ancre et on avance.
Une ancre et on avance. Merci, merci beaucoup, Miliana, pour tous ces partages. J'espère que, tout comme moi, vous avez trouvé toutes les clés et les explications que Miliana nous a données absolument passionnantes. Donc, merci infiniment pour tout ce que tu nous as offert aujourd'hui.
Merci beaucoup à toi. Merci à vous tous d'aider ce travail se produire. On est tous en train de le porter ensemble.
Si on veut te retrouver, te contacter, comment on fait?
Je suis pas mal sur LinkedIn, un petit peu sur Instagram. Je pense que mon livre, c'est un bon outil de connexion.
Je vais me remettre un peu en grand écran. Hop, que vous puissiez bien le voir, n'est-ce pas? Donc, le livre Neuro-Excellence.
Et puis par email, s'il y a des questions particulières et des demandes particulières, par email aussi, biliana.todd@gmail.com.
Encore un immense merci, Biliana.
Merci beaucoup à toi.
Et donc, à très bientôt, j'espère. Et à très vite, à toutes et à tous, pour une prochaine interview. Ciao, ciao.
À bientôt.